J'ai une très bonne question pour vous. Est-ce qu'il faut pratiquer la loi de Dieu pour être sauvé? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui est le seul moyen de passer l'éternité avec Dieu, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, si vous voulez passer l'éternité au ciel, dans la présence de Dieu, je vous invite à bien écouter ce que la Bible va nous enseigner aujourd'hui en réponse aux questions que voici. Est-ce que Jésus-Christ est pleinement Dieu? De quoi avons-nous besoin pour être prêts à affronter la vie? Que dit la Bible au sujet de la circoncision? Quelle preuve avons-nous de la résurrection du Seigneur Jésus? Est-ce que le salut est la réforme de notre vieille nature? Est-ce que la loi de Dieu est l'outil dont nous avons besoin pour être sauvés? Avons-nous besoin de rituels pour être sauvés? Y a-t-il des personnes qui ont de la connaissance au sujet du Seigneur Jésus, mais qui ne le connaissent pas personnellement? Est-ce qu'on doit suivre toutes sortes de règlements pour être chrétien? Demeurez avec nous, le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous donner la réponse à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Oui, Seigneur, on veut te prier et on veut te louer aussi, te remercier de nous avoir donné ta parole, de nous avoir enseigné, dès le début, tout ce que tu désirais qu'on sache au sujet de toi, tout ce qu'on doit connaître pour notre marche avec toi. Enseigne-nous aujourd'hui, on a besoin de mieux te connaître. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons souligné le fait que le christianisme est en fait une personne, Jésus-Christ, qui est l'eau de la vie. Nous avons dit que 5 dangers guettent l'Église, les discours séduisants, la philosophie, le légalisme, le mysticisme et l'ascétisme. Nous avons discuté des discours séduisants et de la philosophie. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler des 3 autres dangers, le légalisme, le mysticisme et l'ascétisme. Nous avons parlé de l'unité de l'Église. L'Esprit de Dieu baptise tous les croyants dans le corps de Christ qui est son Église. Les croyants sont donc unis dans ce corps. C'est là un des mystères dont Paul parle dans cet épître ainsi que dans l'épître aux Éphésiens. L'amour est un autre lien qui unit les croyants. Ce lien est un fruit de l'Esprit. Jésus est la source de sagesse et de connaissance. La sagesse humaine ne peut pas résoudre les problèmes du monde. Il ne faut donc pas se laisser séduire par la philosophie humaine. C'est la Bible qui doit nous séduire. Si nous suivons un homme plutôt que la parole de Dieu, nous nous sommes fait séduire par des mauvais discours. Finalement, nous avons dit que marcher chrétiennement n'est pas avoir une expérience qui nous élève au 7e ciel. C'est dans notre foyer, au travail, en classe et dans la rue que nous marchons chrétiennement. Cela se voit dans nos relations avec les gens de notre entourage. Chers amis, débutons notre lecture Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus-Christ est pleinement Dieu. Nous avons parlé de ce verset dans l'introduction de l'Épître. Ce verset affirme clairement la divinité de Jésus-Christ. Nous ne pourrions l'affirmer mieux que cela. En Christ habite toute la plénitude de la divinité. Pas 99,9%, mais 100%. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En Christ Jésus, nous sommes prêts à affronter la vie. Vous avez tout pleinement en lui. En Jésus-Christ, nous avons tout ce qu'il faut pour compléter notre pèlerinage terrestre en lui. N'est-ce pas merveilleux? En Christ Jésus, nous sommes prêts à affronter la vie. Il pourvoit tout ce dont nous avons besoin pour notre pèlerinage terrestre. C'est pour cette raison que nous affirmons que Jésus-Christ est la réponse de Dieu à nos besoins. Quelle est votre question? Quels sont vos besoins? Est-ce que vous êtes séduit par une philosophie humaine? Alors, tournez-vous vers le Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes victime de discours séduisants? Est-ce que vous êtes sous le joug de traditions humaines? Tournez-vous vers Jésus-Christ. Verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. La véritable circoncision est la nouvelle naissance. Paul dit aux Colossiens de ne pas s'appuyer sur des signes extérieurs. La véritable circoncision est la nouvelle naissance. C'est ce qu'il a déjà expliqué aux Galates, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Galates chapitre 6, verset 15. Lorsque nous venons à Jésus-Christ et que nous le recevons comme sauveur, nous naissons de nouveau et nous devenons une nouvelle créature. Nous nous appuyons sur lui et nous sommes identifiés à lui. Verset 12. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Quelle preuve avons-nous de la résurrection du Seigneur Jésus? Les vies transformées par la foi en la puissance de Dieu sont la plus grande preuve que nous ayons de la résurrection du Seigneur Jésus. La mort et la résurrection du Seigneur Jésus sont deux faits historiques. Lorsque le Seigneur Jésus est mort, nous, les croyants, sommes morts avec lui. Il est mort à notre place. Lorsqu'il est ressuscité, nous avons été ramenés à la vie avec lui. Nous sommes unis à un Sauveur vivant qui est Jésus-Christ. Il est important que nous comprenions que nous sommes unis à un Sauveur vivant. Nous ne devons jamais oublier que les rituels religieux ne nous rapprochent pas de Jésus-Christ. L'important, c'est de naître de nouveau, et que le Seigneur Jésus soit notre Sauveur personnel. S'il l'est, nous sommes identifiés à lui. L'identification à Jésus-Christ, c'est la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Cette circoncision est spirituelle, car elle est l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque vous placez votre confiance en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vous baptise dans le corps de Christ. C'est par ce baptême que nous sommes identifiés à Jésus-Christ et que nous sommes ramenés à la vie en lui. Nous sommes unis au Christ vivant. Nous sommes sauvés par la puissance divine, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Nous sommes sauvés par la puissance divine, je le répète, ce n'est pas une philosophie ou une religion qui nous sauve. Suivre des cours ne nous donne pas la puissance de vivre pour Dieu. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Le salut est la réception d'une nouvelle nature spirituelle. Le salut, ce n'est pas la réforme de notre vieille nature, mais c'est la réception d'une nouvelle nature spirituelle. Rappelez-vous que Paul devait confronter deux systèmes philosophiques populaires à son époque. Ils étaient diamétralement opposés l'un à l'autre. Une des philosophies était le stoïcisme et l'autre l'épicuréisme. Le stoïcisme enseignait que l'homme devait vivre noblement et que la mort n'était pas importante. Il fallait maîtriser ses convoitises et ne pas laisser les changements nous affecter. En fait, les stoïciens affirmaient « Ne sois pas encouragé par ta bonne chance, ni découragé par tes malheurs. » Ils croyaient que l'homme dépasse ses circonstances et que l'âme est plus grande que l'univers. C'était une philosophie courageuse, mais comment vivre selon celle-ci? Les stoïciens ressemblaient aux gens qui affirment vivre selon le sermon sur la montagne, mais qui en réalité ne sont absolument pas à la hauteur. L'épicuréisme enseignait qu'il n'y a rien de certain, Nous ne savons pas d'où nous venons, ni où nous allons. Nous savons seulement qu'après une vie brève, nous quitterons la scène. Il est donc inutile de se priver de toute joie et de tout plaisir pour échapper à des malheurs futurs. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Observez que ces deux systèmes philosophiques essayaient de régler le problème de la chair, soit notre vieille nature et non la chair qui couvre nos os. Notre vieille nature se manifeste dans nos vieilles habitudes, nos anciens désirs et nos anciennes tentations. Comment pouvons-nous maîtriser ces choses? Nous sommes unis au Christ vivant. On nous propose toutes sortes de façons et de systèmes pour nous permettre de marcher chrétiennement. Je connais des gens qui ont assisté à de nombreuses conférences au sujet de la vie et de la marche chrétienne. Ils possèdent de nombreux cahiers de notes, mais leur marche chrétienne est boiteuse. Pourquoi? Nous avons besoin de comprendre la chose importante que Paul nous dit. Nous sommes unis au Christ vivant, mes amis. Si vous êtes unis au Seigneur Jésus, vous allez vivre en conséquence. Combien intime êtes-vous avec lui? Marchez-vous avec lui? Vous tournez-vous vers lui lorsque vous avez des problèmes? Est-il au centre de votre vie? La loi n'est plus l'outil pour marcher dans la piété. Paul va maintenant traiter du légalisme. Nous verrons encore une fois que c'est dans la parole de Dieu que nous trouvons la solution au légalisme. Au moyen de la parole, nous pouvons développer une relation personnelle et intime avec Jésus-Christ. Le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Notre chair, notre vieille nature, a été condamnée. Lorsque le Seigneur est mort, il est mort pour nous, à notre place. Il a payé pour tous nos péchés, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Lorsque le Seigneur Jésus est mort, Pilate a fait mettre un écriteau sur la croix. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. L'Évangile selon Jean, chapitre 19, verset 19. Il est exécuté publiquement sous le prétexte qu'il avait fomenté une rébellion contre César. Bien entendu, cela n'était pas vrai, mais cette accusation a été portée contre lui. Lorsque les gens voyaient l'écriteau, ils comprenaient que Jésus n'avait pas été loyal à César et qu'il avait voulu se faire roi. Selon les témoins de sa crucifixion, Jésus avait été exécuté pour cette raison. Cependant, lorsque Dieu regardait la croix, il y voyait un autel sur lequel était immolé l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dieu voyait un autre écriteau que celui de Pilate. Il voyait un écriteau qui disait « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. » Qu'est-ce que Dieu a mis sur l'inscription? Il a écrit les 10 commandements. Il a écrit les articles d'une loi que je suis totalement incapable d'observer, une loi dont je viole continuellement les articles. Lorsque le Seigneur Jésus est mort sur la croix, il n'est pas mort parce qu'il a violé la loi divine, car il était sans péché. Il est mort parce que j'ai violé la loi divine, parce que je suis un pécheur, et parce que vous êtes des pécheurs. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains, chapitre 3, verset 23. Ainsi donc, mes amis, si Dieu vous a sauvés et vous a ramenés à la vie avec son Fils, et qu'il vous a uni à son Fils, pourquoi retournez-vous à une loi que vous n'avez pas pu observer en premier lieu? Encore aujourd'hui, vous ne pouvez toujours pas observer cette loi par vos propres forces. La loi a été donnée pour discipliner notre vieille nature. Cependant, le croyant possède une nouvelle nature, et la loi n'est plus l'outil pour marcher dans la piété. En nous ramenant à la vie avec Christ, Dieu nous a donné une nouvelle nature spirituelle. Nous ne sommes plus tenus d'observer la loi pour être sauvés. Nous l'observons par amour pour Dieu. Nous voulons le glorifier. Poursuivons notre lecture de Colossiens, chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. La victoire spirituelle que Jésus-Christ nous a acquise en mourant à la croix pour nous est d'une valeur inestimable. Colossiens 2, versets 16 et 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ne remplaçons pas la réalité par une photo de celle-ci. Un croyant ne doit pas observer des coutumes qui ne sont que des rituels liturgiques. Ces choses n'ont aucune valeur. Dieu avait demandé aux croyants de l'Ancien Testament d'observer certains rituels. Pourquoi est-ce différent maintenant? Paul explique qu'ils étaient l'ombre des choses à venir. Les rituels de l'Ancien Testament étaient des symboles ou des images de Jésus-Christ et de son sacrifice à la croix. Puisque le Seigneur Jésus est venu et qu'il s'est offert en sacrifice pour nos péchés, nous n'avons plus besoin des rituels qui servaient de symboles et d'images. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, un pasteur a célébré le mariage d'un jeune couple. La jeune époux a été envoyée outre-mer pour combattre. Pendant son absence, la jeune épouse a toujours gardé une grande photo de son mari dans son sac à main. Elle la sortait continuellement pour la montrer à ses amis et à ses connaissances. Elle disait « Ne le trouvez-vous pas beau ?» Lorsque la guerre s'est terminée, elle s'est rendue à Seattle, dans l'État de Washington, pour l'arrivée de son mari. Lorsqu'elle l'a vu descendre la passerelle, pensez-vous qu'elle a sorti la photo pour la regarder? Pensez-vous qu'elle a regardé la photo en disant « N'est-il pas merveilleux ?» Non, elle ne devait même pas avoir le portrait avec elle. Elle a vu son mari, et lorsqu'elle l'a vu, elle n'avait pas besoin d'une photo. Elle l'a enserré dans ses bras. Plusieurs d'entre nous devrions cesser de courir les conférences, d'essayer toutes les soi-disant techniques de croissance spirituelle et de chercher des raccourcis pour expérimenter une vie abondante. Cessons de regarder les photos alors que nous avons la réalité qu'elles représentent. Le Seigneur Jésus en nous, l'espérance de la gloire. Connaissez-vous Jésus personnellement ou en avez-vous simplement entendu parler? Paul nous donne maintenant un avertissement contre le mysticisme. Les versets 18 et 19. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. De nombreuses personnes s'écartent des voies de Dieu pour se tourner vers le mysticisme. Dans ces versets, l'apôtre Paul condamne les gnostiques qui prétendaient avoir la sagesse divine. Dans nos églises, nous trouvons de nombreuses personnes qui se pensent spirituellement supérieures aux autres. Ce sont des snobs spirituels. Si nous les observons bien, nous remarquerons que souvent ces personnes ne connaissent pas la Bible. Le texte dit « Ne vous ravissez à son gré le prix de la course ». Les gnostiques faisaient cela en prétendant avoir des connaissances qu'ils ne possédaient pas. Non seulement étaient-ils ignorants en matière spirituelle, mais ils égaraient les autres avec leur prétendue vision. Sans s'attacher au chef, ces personnes n'ont pas une relation avec le Seigneur Jésus. Elles en ont entendu parler, mais elles ne le connaissent pas. Paul donne un avertissement au sujet de l'ascétisme, les versets 20 à 23 de Colossiens chapitre 2. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, en ce qu'il indique un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Le christianisme, une histoire de cœur entre vous et votre Sauveur, Jésus-Christ. Plutôt qu'être traduit par « si vous êtes mort avec Christ ». Le texte aurait pu être traduit par « puisque vous êtes mort avec Christ ». Autrement dit, « puisque vous êtes mort avec Christ », pourquoi vivez-vous comme vous le faisiez avant la crucifixion? Certaines personnes s'imposent toutes sortes de règlements. Elles réduisent la vie chrétienne à un carcan de règlements de toutes sortes et à des privations. Ne te coupe pas les cheveux, ne te maquille pas, ne bois pas, donne tant à l'Église, fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Paul condamne l'orgueil déguisé en humilité. C'est ce qu'est une vie soi-disant chrétienne, formée de règlements et de lois de toutes sortes. L'orgueilleux dit « Je me prive de certains plaisirs et j'évite de faire de nombreuses choses. Regardez-moi, le matin je déploie les ailes qui m'ont poussé, je polis mon auréole. » Mais cela est sans valeur réelle, mes amis. Les pratiques ascétiques sont inutiles. Dieu désire que vous vous réjouissiez en lui de ce qu'il a fait pour vous. Le Seigneur Jésus veut être en relation intime et personnelle avec vous. Il veut votre cœur et il veut des cœurs à cœur avec vous dans la prière. Si vous marchez avec lui, mes amis, vous aurez du bon temps. Le christianisme, c'est une histoire de cœur entre vous et votre Sauveur, Jésus-Christ. Nous affirmons souvent que Jésus veut notre cœur car il nous aime. Juste avant de mourir à la croix, Jésus a prié son Père céleste pour tous ceux qui croiraient en lui. Cette prière révèle l'amour profond de Jésus-Christ pour nous. Voici la prière que Jésus a faite pour nous. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Citation de l'Évangile selon Jean chapitre 17, versets 20 à 26. Pour terminer, je vous cite les paroles d'un chant de Ruben Sayens. Par toi, Jésus, la joie abonde. Par toi, Jésus, la joie abonde pour ceux qui t'ont donné leur cœur. Que sont les vains plaisirs du monde? Toi seul est le bonheur. Pour tous, la promesse est la même. Quiconque t'invoque est sauvé, et qui te cherche, ami suprême dans son cœur, t'a déjà trouvé. De toi seul, pain qui rassasie, je veux me nourrir désormais source éternelle de la vie. Je veux, par toi, vivre à jamais. Par ton amour, tu me captives, tu m'as appelé, je te suis. Tes brebis ne sont plus craintives, bon berger, quand tu les conduis. Et que dire de l'évangéliste Jean chapitre 10, où nous retrouvons cette merveilleuse histoire d'un berger qui trouve ses brebis, qui les appelle par son nom, et que ses brebis suivent la voix de ce bon berger. Chers amis, prochaine émission, l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, les versets 1 à 5. Je vous souhaite à tous bonne lecture.
Merci beaucoup, Régent. Et merci d'avoir lu la prière sacerdotale. Mes amis, chaque fois que je lis cette prière dans ma Bible, ça me fait chaud au cœur. Spécialement quand Jésus dit « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » Mes amis, je sais que le Père m'a donné à Jésus. Dès que j'ai reçu Jésus comme sauveur, comme maître de ma vie, Son Esprit est venu faire sa demeure en moi. Et c'est Lui qui me convainc que je suis une enfant de Dieu, que j'appartiens à Jésus, celui qui m'a racheté par son précieux sang. Et voilà qu'il dit à son père, « Je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » Mes amis, Jésus est au ciel et il me prépare une place. Dans le 14e chapitre de l'Évangile de Jean, des versets 1 à 4, Jésus a dit, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Mon ami, j'espère pour toi que ces paroles de Jésus s'adressent à toi aussi. Si tu as reconnu un jour que tu étais un pécheur, une pécheresse, comme nous le dit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, c'est-à-dire que tous ont péché, et si tu t'es repenti, te détournant du péché pour te tourner vers Jésus, si tu as reçu le cadeau qu'il t'a offert, le don gratuit de la vie éternelle, eh bien Jésus parle de toi dans sa prière. Il dit, « Père, je veux que là où je suis, Caro, Jacques, Hélène, François, Julie, Frédéric, soient avec moi. » Oh, mon ami, peut-être que tu es porté à dire ce que Thomas a dit à Jésus, toujours dans Jean 14. Il a dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Eh bien, voici la réponse que Jésus lui a donnée. Jésus lui a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mon ami, Jésus est au ciel, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Mais par son esprit et par ma petite voix, il est en train de t'inviter à le recevoir comme ton sauveur personnel. Jésus est le chemin, le seul chemin qui mène au Père, qui mène au ciel pour l'éternité. N'en cherche pas d'autre. Repens-toi maintenant. La repentance, c'est un changement de cœur à l'égard du péché qui fait qu'on veut s'en éloigner. Et maintenant, tourne-toi vers Jésus et reçois le beau cadeau qu'il t'offre en ce moment. Demande à Jésus de te sauver. Demande-lui de te donner la vie éternelle, cette vie qu'on ne mérite pas. Personne d'entre nous la mérite. Et place ta confiance en Jésus. Jésus est le chemin qui mène à Dieu. Emprunte ce chemin. Emprunte le chemin qui mène au ciel dès maintenant. Tu vas être heureux éternellement.
Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours Parole par poste.
Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance?
Dans la série radiophonique À travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel.
Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long?
Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondues à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, de quelques pages, et remplir le questionnaire.
Alors on n'a pas besoin d'autres livres?
La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule.
Ah,
pour en faire
compliqué.
La correction, parce que les gens pourront suivre cette série.
Ah, c'est pas compliqué.
Très simple.
J'ai vraiment le goût de m'inscrire.
Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone.
1-877-LESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlebourg, Québec, G1G 6P2.
Au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.